Voilà, alors je vous promets que je n'ai pas rallongé les textes du jour, j'ai même raboté un tout petit peu l'évangile de quelques versets, voilà, pour enlever le paragraphe final. Ils sont très longs, voilà, c'est comme ça, ça tombe bien que ce soit un culte peut-être sans Sainte-Seine et qu'on puisse être plus concentré sur le reste. Voilà. Alors, je ne sais pas si cette phrase vous dit quelque chose, l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est une phrase bien frappée qui fait partie, à mon avis, de ces phrases qu'on peut parfois attribuer à la Bible alors qu'en fait, elle ne s'y trouve pas. C'est une phrase qui vient du Petit Prince. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est le secret que le renard confie au Petit Prince. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et en effet, ça pourrait être un bon résumé de l'Évangile. Alors, on trouve quand même des phrases qui expriment cela dans la Bible, donc, enfin, en particulier dans le Nouveau Testament. Par exemple, dans la deuxième épître aux Corinthiens, « Nous regardons non pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas, car ce qui se voit est éphémère, mais ce qui ne se voit pas est éternel. » Et puis, bien sûr, la première phrase du texte de l'épître aux Hébreux que nous avons lu, « La foi, c'est la réalité de ce que l'on espère, l'attestation de choses qu'on ne voit pas. » Phrase que vous connaissez peut-être, hein, qui est une des rares définitions de la foi dans le Nouveau Testament, et qui définit donc la foi avec l'idée de l'invisible. Alors j'aimerais m'interroger avec vous sur ces choses invisibles dont on nous parle ici. Nous avons entendu que dans ce texte assez long, donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux prend plusieurs exemples de figures de l'Ancien Testament qui ont montré une grande foi. Et un point qui les rassemble, en tout cas dans ce texte, c'est non seulement leur grande foi, mais le fait que ces personnes aient eu une telle foi dans des circonstances très incertaines. Alors, je ne vais pas parcourir tous les exemples de personnages que nous avons entendus, seulement quelques-uns. Donc, d'abord, Caïn et Abel, je relis un peu, hein, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, il lui fut rendu le témoignage qu'il était juste, Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes. Et si on relit dans la Genèse l'histoire de Caïn et Abel, on s'aperçoit que Abel ne reçoit aucun véritable signe de l'agrément dont bénéficie son offrande auprès de Dieu. On nous dit juste, le Seigneur porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn, ni sur son offrande. Petite incertitude donc, un peu plus loin, dans ce texte de l'Épître aux Hébreux, on nous parle de Noé. Je relis aussi, c'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, bâtit une arche pour le salut de sa maison. Et en effet, dans le récit de la Genèse, Dieu dit seulement à Noé de prendre les animaux avec lui sur une arche, mais il ne lui dit pas qu'un jour il n'y aura plus d'eau. Et c'est de sa propre initiative que Noé envoie la colombe. Et cela montre, je crois, que pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux, cela montre la grande confiance que Noé faisait à l'amour de Dieu. Même si Dieu ne lui avait pas dit comment cette histoire d'arche allait se finir, eh bien Noé avait confiance qu'elle se finirait bien, qu'elle se finirait par le reflux des eaux. Et enfin, bien sûr, l'exemple d'Abraham. Exemple qui développe le plus ce paradoxe d'une foi qui fait confiance malgré le fait qu'elle ne voit pas où cela va la mener. C'est par la foi qu'Abraham obéit à un appel en partant vers un lieu qu'il allait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. J'ai relu là aussi un verset, un beau verset. Il partit sans savoir où il allait. Et en effet, si on relit le texte de Genèse 12, hein, on lit « Le Seigneur dit à Abraham, va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines et de la maison de ton père, vers le lieu que je te montrerai. » Pars, dit Dieu à Abraham, vers où ? Vers le lieu que je te montrerai. Pars de ta patrie, c'est-à-dire de tout ce que tu connais, vers l'inconnu. Alors, ce que l'Épître aux Hébreux appelle l'invisible, eh bien, je crois que c'est cette part d'inconnu dans la foi. Et donc, il me semble que, ou en tout cas c'est une interprétation possible de ce texte, que ce qui nous est dit là, c'est que la foi, ce n'est pas seulement voir l'invisible, mais que la foi, c'est aussi accepter de ne pas voir, de ne pas tout voir. C'est être certain de ces choses invisibles, sans pour autant les voir, c'est-à-dire sans pour autant qu'elles soient manifestes à nos yeux et à nos esprits. Et je crois vraiment que c'est ce qui nous est dit là, quand on lit qu'Abraham partit sans savoir où il allait, et quand on lit à la fin de ce parcours des différentes figures de l'Ancien Testament, c'est par la foi que tous ceux-là sont morts, sans avoir obtenu les choses promises. Cela signifie qu'il savait que ces choses invisibles n'allaient pas devenir visibles d'une certaine manière, qu'elles n'allaient pas être manifestes pour eux, mais qu'elles étaient d'un autre ordre, qui ne leur étaient pas accessibles pour le moment sur cette terre. Et je continue à relire un peu ce beau passage. « Cependant, ils les ont vus et salués de loin, en reconnaissant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. » Donc toutes ces personnes savaient qu'elles inscrivaient leur vie dans la quête de quelque chose qui ne serait jamais totalement clair pour elles. Grand paradoxe, me semble-t-il, qui est présent dans ce texte, et paradoxe sensible même dans le grec de ce texte, puisque l'expression « saluer de loin » qu'on a entendu, donc ces personnes ont salué de loin ces choses invisibles, eh bien en grec, c'est avec un verbe qui signifie « embrasser, prendre dans ses bras ». Donc elles ont tenu dans leurs bras, elles ont tenu fermement des choses qui pourtant restaient loin d'elles, inatteignables dans cette vie. Et c'est pareil pour Abraham, c'est par la foi qu'il vint s'exiler sur la terre promise, comme dans un pays étranger, habitant sous des tentes. Là aussi, un paradoxe, Abraham a atteint la terre promise, mais il ne s'y est pas installé, il est resté sous des tentes. Dieu l'a mené quelque part, et une fois cet endroit atteint, Abraham ne s'y installe pas. C'est étrange quand même, c'est là aussi une sorte de paradoxe que le grec rend aussi, puisque le verbe, quand on dit habitant, qu'Abraham pardon, a habité sous des tentes, le grec, pour le verbe habiter, utilise le radical du mot maison. Abraham a emmaisonné dans des tentes. Donc c'est comme s'il il ne s'installe pas vraiment, puisqu'il est dans une tente, mais il sait qu'il ne s'installera jamais vraiment, et donc que cette habitation provisoire qu'est la tente, eh bien, ça devient sa maison jusqu'à sa mort. Donc Abraham, ne s'installe pas dans cette terre promise, mais il sait que la promesse de Dieu concerne surtout des choses invisibles et donc que la véritable terre promise n'est pas de ce monde. Alors, je ne dis surtout pas que notre foi serait vide et que l'objet de notre foi, ce que nous croyons, nous n'en sommes pas certains, non. Mais je crois que ce contenu de notre foi, eh bien, parfois, ou pour une part, nous pouvons en être très fermement assurés, tout en reconnaissant qu'il nous dépasse, qu'il dépasse la mesure de nos capacités humaines, qu'il dépasse l'ordre humain, qu'il échappe à l'ordre de ce qui est visible, manifeste, de ce qui peut s'expliquer. Nous pouvons croire fermement que nous ressusciterons, et pour la majorité d'entre nous qui sommes ici, je pense que nous le croyons fermement, c'est-à-dire que pour nous, Dieu assurera la victoire de la vie sur la mort, sans pour autant savoir exactement quelle forme cela prendra. Et il faut bien reconnaître que même dans les évangiles, la résurrection du Christ n'est pas quelque chose de simple, n'est pas quelque chose qui s'offre à notre intelligence, puisque à chaque fois Jésus ressuscite dans son corps, mange du poisson avec les disciples, et en même temps son corps semble avoir des propriétés qu'il n'avait pas avant, puisque sur le chemin d'Emmaüs, il peut se cacher et se faire reconnaître à un moment précis. Voilà, ce n'est pas quelque chose d'évident à comprendre et à expliquer, la résurrection. Et de même, nous pouvons croire très fermement qu'après notre mort terrestre, nous serons unis à Dieu dans l'éternité, tout en sachant très bien que nous ne pouvons pas du tout nous figurer l'éternité, puisqu'il est impossible à notre esprit de penser un état qui soit hors de l'espace et hors du temps. Nous ne pouvons pas penser concrètement ce à quoi ressemblera l'éternité. Alors bien sûr, il y a aussi dans notre foi des choses qu'on se représente facilement, ou du moins plus facilement, me semble-t-il. Quand nous disons dans le credo, par exemple, que nous croyons à l'Église universelle, quand nous affirmons que nous sommes tous frères et sœurs car enfants de Dieu, eh bien là, il me semble que nous pouvons très bien comprendre ce que cela représente. Et c'est à mon avis parce qu'il s'agit de réalités humaines, parce qu'il s'agit de notre vie d'Église sur la terre, de notre vie d'ici-bas. Mais pour certaines choses, pour ce qui concerne ce qu'on appelle en langage technique de théologie les fins dernières ou l'eschatologie, ce qui arrivera à notre mort, à la fin du monde, et déjà si ces deux moments sont équivalents, c'est une bonne question à laquelle nous aurions peut-être tous des réponses très différentes, eh bien, sur ces choses, il n'est pas évident du tout de tirer un enseignement limpide de la parole de Dieu. Et même par exemple chez les catholiques, qui ont donc quand même une dogmatique assez élaborée, même si on regarde dans le catéchisme de l'Église catholique, donc avec ce système de questions-réponses que vous connaissez peut-être, eh bien sur cette question de la venue du royaume de Dieu à la fin des temps, eh bien il est dit que c'est un mystère et que nous ne pouvons pas savoir quelle forme prendra exactement la transformation de notre monde à la fin des temps. Et donc, nous sommes invités, je crois, à tenir ce paradoxe d'une foi qui est une confiance absolue en Dieu, en ses projets pour nous, mais en même temps d'une ignorance, de notre ignorance assez étendue sur ce que sera ce temps d'après quand nous serons réunis à Dieu. Et je crois que le Christ nous invite vraiment à cela, puisque ce paradoxe, on le trouve aussi dans l'évangile que nous avons lu, dans cette image, me semble-t-il, d'une veille qui ne sait pas quand vient l'aurore. Cette image de la veille, elle est, à mon avis, peut-être là pour traduire dans le temps une réalité d'un autre ordre, c'est-à-dire que, en fait, la question dont les veilleurs ignorent la réponse, ce n'est pas tant quand viendra l'aurore que quelle sera cette aurore qui vient. Ce pourquoi les veilleurs ne peuvent pas prévoir le moment de la venue de cette aurore, eh bien, c'est que ce n'est pas une aurore comme les autres qui vient après une nuit naturelle, c'est que c'est une aurore spéciale qu'on ne connaît pas et donc qu'on ne peut pas prévoir. Et voilà, ce retour du Christ dont on nous parle dans l'Évangile, force est de reconnaître que l'Évangile ne nous donne pas beaucoup d'éléments pour comprendre ce à quoi il correspond, et que si on trouve quand même quelques indications sur des événements qui l'accompagneront, dans le fond, on ne sait pas très bien ce que signifiera ce retour. Alors c'est vrai que de l'extérieur, cela peut paraître étrange, puisque, comme d'autres religions, le christianisme est repéré comme offrant une parole d'espérance pour l'au-delà. Et c'est vrai que si on nous demande d'exprimer ce qu'est pour nous cet au-delà, eh bien nous pouvons avoir une idée de la question, mais nous pouvons aussi nous sentir un peu démunis et du point de vue de l'extérieur, du point de vue des personnes qui ne sont pas chrétiennes, c'est vrai que cela peut paraître peut-être déroutant et cela peut être délicat pour nous-mêmes face à ces personnes de ne pas avoir de réponse précise à ces questions qui sont pourtant, qui peuvent sembler basiques, fondamentales. Mais je crois que c'est aussi la beauté de notre foi chrétienne, de ne pas être un catéchisme que l'on récite, mais d'être avant tout une confiance, et une grande confiance, puisque voilà, ce paradoxe, c'est que nous ne savons pas très bien, comme Abraham et comme tous ces témoins qu'a parcouru ce texte de l'Épître aux Hébreux, nous ne savons pas très bien vers où nous allons, et en effet, difficile de dire que Caïn et Abel, enfin que qu'Abel savait qu'un jour viendrait le Christ, Nous ne savons pas très bien vers où nous allons, mais nous avons cette très grande confiance en Dieu, confiance d'autant plus grande que nous ne savons pas où elle va nous mener. Et il me semble que ce n'est en fait pas si difficile que cela pour nous d'accepter d'avoir une certitude, mais pas l'ensemble des réponses qui vont avec. Et que, s'il s'agit de tenir ensemble dans notre esprit cette confiance ferme et forte d'une part, et d'autre part cette relative ignorance qui est en fait l'acceptation des faiblesses de notre raison humaine, qui ne peut pas concevoir l'éternité, etc., eh bien ça ne nous est pas impossible du tout. N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. C'est le verset qui ouvre notre évangile du jour, et Jésus n'en dit pas plus sur ce royaume. Nous ignorons quelle loi le dirige, si ce n'est la loi de l'amour, dont notre entendement humain ne peut pas se représenter la mise en œuvre parfaite. Et le Christ nous invite à ne pas avoir peur, à ne pas nous tracasser outre mesure avec ces questions sur ce qui nous dépasse. Il est intéressant de se les poser, et on peut avoir une opinion mûrie sur ces questions, mais je crois que le Christ nous invite à voir que l'essentiel pour nous sur cette terre, c'est notre confiance en Dieu, notre confiance même en ce que nous ne voyons pas, c'est notre attitude de foi, notre écoute à ce que Dieu veut pour nous dans notre vie. N'aie pas peur, crois seulement, nous dit Jésus. Amen.
Amen.